8h30 à Niamey, 9h30 à Paris et Goma. Merci d'écouter RFI.
RFI Matin.
Et tout de suite, le journal de Vincent Dublanche. Vincent, on revient d'abord avec vous sur cette attaque au Niger dimanche.
Des sources sécuritaires évoquent 58 morts chez les forces spéciales formées par l'Allemagne dans la région de Tawa. On est aussi au Sénégal. On va détailler le sort judiciaire du maire de Saint-Louis en détention provisoire depuis hier dans l'affaire des fonds anti-Covid. En Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon réaffirme sa disponibilité à mener le PDCI à la présidentielle d'octobre. Le journal des sports dans 10 minutes. Hommage notamment depuis Dakar au grand nom de l'athlétisme sénégalais Ibou Faye, décédé à Paris d'une crise cardiaque. On entendra aussi la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur qui veut tenter de sortir la tête et la raquette de l'eau après des mois difficiles. Elle entre en lice aujourd'hui à Roland-Garros. Au Niger, pas de communication officielle après l'attaque qui a de nouveau visé le camp militaire d'Eknewan. C'était dimanche, le bilan est lourd, quoique non officiel. Des sources sécuritaires, je vous le disais, évoquent au moins 58 soldats des forces spéciales tués, dont leur commandant. Le groupe État islamique au Sahel est pointé du doigt. Des ratissages sont toujours en cours, Pierre Firsion.
La zone de défense numéro 4 a enterré hier à Tawa ses soldats tombés dans la vallée d'Eknewan lors d'un violent accrochage avec des djihadistes venus à moto. Après le salut aux morts, le chef d'état-major des forces armées s'est rendu à Tidia, plus au nord, pour soutenir le moral des troupes. Les ratissages engagés depuis 48 heures ont permis de retrouver d'autres corps sans vie, ce qui porte, selon des sources sécuritaires, à 58 le nombre de soldats tués dimanche. En attendant le bilan officiel de ces combats, la mort avec ses hommes du commandant de la brigade spéciale dénote de la violence de l'accrochage. Ces éléments du BRS sont un corps d'élite de l'armée formé par des forces spéciales allemandes à Tilia. La vallée d'Eknewan est depuis 10 ans le fief des djihadistes de l'EIGS qui contrôlent cette zone de part et d'autre des frontières nigériennes et maliennes. Ce sont eux qui sont responsables des enlèvements récents à Agadez, dans le nord du pays, des deux ressortissantes européennes, Eva Gretzmacher et Claudia Abt.
Et plusieurs autres attaques ont eu lieu au Sahel. D'abord, hier, le camp militaire de Soumpi dans la région de Tombouctou au Mali, visé par des tirs de drones. C'est les rebelles indépendantistes du Front de Libération de l'Azawad qui ont revendiqué cette attaque. Et puis, d'autres attaques, cette fois de djihadistes du Jnim au Mali. Une attaque vendredi contre un camp de l'armée à Djoura dans la région de Mokti. 41 militaires tués, dit une source sécuritaire. L'armée n'a pas communiqué. Un maire a aussi été enlevé au Mali, le maire de Kona. On est toujours là dans la région de Mopti, dans le centre du Mali. C'était dimanche, nous confirment des sources locales. Au Sénégal, le maire de Saint-Louis a passé sa première nuit en prison. Amadou Mansour Faye, qui est aussi le beau-frère de l'ancien président Macky Sall, qui est ancien ministre et qui est en détention provisoire depuis hier soir. Il est poursuivi par la Haute Cour de justice comme 4 autres ex-ministres de l'ère Macky Sall pour des détournements allégués de fonds anti-Covid, Léa Elisa Vesterhoff.
Après avoir comparu près de 4 heures devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, Amadou Mansour Faye, actuellement maire de Saint-Louis, a été inculpé pour complicité de détournement de deniers publics, entre autres. Accusé de surfacturation, estimé à plus de 2,7 milliards de francs CFA suite à des achats de riz destinés aux populations vulnérables pendant la pandémie de Covid-19. Des accusations rejetées par Amadou Mansour Faye et son équipe d'avocats, selon laquelle ces chefs d'inculpation sont le résultat d'un acharnement politique. Maître Amadou Sall.
Si aujourd'hui il est retenu pour ce délit, pour cette infraction, il ne fait absolument l'objet d'aucun doute que c'est une commande politique. Parce que il n'est en rien concerné et il l'a démontré.
Selon sa défense, l'ancien ministre du Développement communautaire ne peut pas être reconnu responsable de possibles cas de surfacturation car il ne faisait pas partie de la commission qui a choisi l'entreprise à laquelle ce riz a été acheté. Hier, ses avocats ont proposé une mise en liberté provisoire avec paiement d'une caution, refusée par la commission d'instruction qui doit désormais compléter son enquête pour décider si Amadou Mansour Faye sera poursuivi ou non. Léa Elisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Et de ce sujet, on parlait ce matin avec notre grand invité Afrique, le politologue Mamadou Lamine Sarr. Entretien à retrouver soit sur notre application RFI ou sur notre autre application dédiée au podcast RFI Pure Radio. La conférence des évêques du Togo dénonce le passage officiel de la 4e à la 5e République dans le pays d'Afrique de l'Ouest. C'est effectif depuis le 3 mai dernier, d'après les évêques catholiques togolais. Ce passage s'est fait sans véritable dialogue national et fait peser de graves risques sur la cohésion sociale du Togo. Les évêques appellent les autorités à prendre conscience du malaise grandissant au sein de la population. Les responsables catholiques qui demandent qu'un processus d'apaisement soit engagé au Togo à travers un dialogue sincère et constructif. En Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon sort de son silence. Le cadre du PDCI-RDA réaffirme son ambition intacte pour la présidentielle d'octobre, une présidentielle pour laquelle, pour l'instant, son parti a un candidat, Tidiane Thiam. Sauf que la justice ivoirienne demande sa radiation des listes électorales. Pour l'instant, on n'a pas encore la nouvelle liste publiée. Mais s'il était effectivement radié, comme le demande la justice ivoirienne, cela rendrait Tidiane Thiam inéligible, d'où Binta Diab, ce retour médiatique de Jean-Louis Billon.
Depuis quelques semaines, Jean-Louis Billon était resté silencieux, dénonçant une mascarade. Il n'était pas candidat à la convention qui, le mois dernier, a désigné Tidiane Thiam candidat à la présidentielle. Mais aujourd'hui, Jean-Louis Billon part d'un constat. Son parti, le PDCI, n'a pas de candidat pour la présidentielle, dit-il. Au nom de l'unité et pour éviter que le PDCI ne rate ce rendez-vous électoral, Jean-Louis Billon réaffirme ses ambitions.
Je suis PDCI. Aujourd'hui, le PDCI n'a pas de candidat. J'appelle au débat démocratique au niveau du parti. Si je suis entendu, tant mieux. Si je ne suis pas entendu, j'avancerai. Je suis soutenu par un ensemble, déjà, de mouvements et d'autres partis politiques. Je n'ai pas besoin d'aller en candidat indépendant. Il y a une myriade de mouvements et de partis qui me soutiennent. Et je ramènerai cette victoire au PDCI.
Sollicité par RFI, le porte-parole du PDCI affirme ne pas avoir d'informations au sujet d'une tentative de rapprochement avec la direction du parti. Une requête qui surprend certains cadres qui relèvent des contradictions. Jean-Louis Billon ne participe pas aux réunions du parti. Il était absent des deux derniers bureaux politiques, souligne l'un d'eux. Il n'y a pas de concertation interne sur cette question, affirme un autre membre du bureau politique qui dénonce une démarche individuelle. Nous nous battons pour que notre candidat, à savoir Tidiane Thiam, soit maintenu sur la liste électorale, poursuit cette source. Binta Diane Abidjan, RFI.
En France, le parquet national antiterroriste, ce n'est pas une surprise, fait appel de la décision rendue la semaine dernière par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris dans l'affaire Agathe Abiarimana, la veuve du président Juvénal Abiarimana, accusée d'avoir incité au génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Elle vit en France depuis 31 ans. La semaine dernière, la chambre de l'instruction avait refusé d'ordonner une mise en examen d'Agathe Abiarimana. Lui compte rencontrer bientôt des personnalités politiques, sécuritaires, de la société civile et des religieux. Joseph Kabila peaufine son programme maintenant qu'il est à Goma dans l'est de la RDC. Il est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi. Pas de réaction pour l'instant côté gouvernemental congolais, mais ces derniers jours, plusieurs sources confirmaient la volonté d'aller jusqu'au procès contre l'ancien président. Pour rappel, le Sénat congolais a levé ses immunités. Il est accusé de collusion avec le M23, ce qu'il nie. Le groupe armé qui a pris ces derniers mois le contrôle de pans entiers des provinces du Nord et du Sud Kivu et qui est accusé d'exaction par Amnesty International, l'organisation dit avoir notamment documenté des cas de torture, 4 détenus qui seraient morts. Cela pourrait constituer des crimes de guerre, dit Amnesty. La FCM23 n'a pas réagi. La Madagascar, l'accord dont on a parlé en fin de semaine dernière, tant attendu, signé entre la République de Maurice et le Royaume-Uni, eh bien cet accord peut-il avoir des conséquences sur les discussions en cours entre Madagascar et la France? Je m'explique, l'accord entre Maurice et le Royaume-Uni rétrocède l'archipel des Chagos à Maurice, et Madagascar, elle, demande la rétrocession des îles Éparses, un autre archipel, à la France. RFI Tana Sarateto.
Et si Madagascar pouvait tirer parti d'une manière ou d'une autre de la rétrocession des îles Chagos à Maurice? Beaucoup ici l'espèrent. Armanan Rani Harnous est maître de conférence à l'université d'Antananarivo et responsable du département de sciences politiques à l'université catholique de Madagascar.
C'est un événement inédit dans l'océan Indien et ça veut dire que tout est possible. À l'heure actuelle, la balle est du côté malgache puisque cette victoire mauricienne, c'est une victoire des droits de l'homme. Il faut que Madagascar s'en inspire. Comment? En faisant davantage prévaloir les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Pour la population, rappelle ce spécialiste de la géopolitique de l'océan Indien, les îles Éparses sont malgaches. La résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de 1979 a explicitement reconnu la souveraineté de la grande île sur ces petites terres. Mais difficile, cependant, de calquer le cas malgache sur le cas mauricien.
Il y a des nuances fondamentales entre ces îles. Les îles Chagos étaient habitées et la population a été expulsée, ce qui n'est pas le cas des îles malgaches. puisqu'elles sont inhabitées, les conséquences en matière de droits humains sont différentes. D'autre part, à l'inverse de Chagos, pour le moment, Madagascar ne compte pas saisir la Cour internationale de justice parce que ces îles lui appartiennent.
En coulisses ici, on espère que les arguments gagnants de la voisine mauricienne serviront aux négociateurs envoyés le 30 juin prochain à Paris pour la seconde rencontre de la commission mixte sur les îles éparses. Sarah Detto, Antananarivo, RFI.
Deux responsables sud-africains évoquent un projet d'accord avec les États-Unis sur le côté commercial. Ce projet qui mentionne l'achat de gaz naturel liquéfié à Washington sur les 10 prochaines années, 1 milliard de dollars par an. En échange, l'Afrique du Sud obtiendrait des quotas pour exporter aux États-Unis des véhicules, de l'acier et de l'aluminium. On va terminer en Algérie avec cette lourde condamnation hier pour 3 anciens candidats qui avaient été recalés de la dernière présidentielle, poursuivis pour achat de parrainage. Ils écopent de 10 ans de prison, Magali Lagrange.
C'était la peine requise par le parquet. La femme d'affaires Saïda Negza, l'ancien ministre Belkacem Sali et Abdelhakim Amadi, patron d'un laboratoire de produits vétérinaires, écopent d'une peine de 10 ans de prison ferme ainsi qu'une amende d'1 million de dinars, environ 6 700 euros, accusés d'avoir acheté des parrainages pour pouvoir être candidat à la dernière présidentielle. Leur dossier avait été rejeté par l'autorité électorale. Les 3 candidats recalés ont été placés sous contrôle judiciaire en août. Selon le parquet, 50 élus auditionnés reconnaissaient alors avoir touché de l'argent en échange de parrainage, une dizaine d'intermédiaires avoir collecté les fonds pour les remettre aux élus. Plusieurs dizaines d'autres personnes étaient jugées dans cette affaire, entre autres pour trafic d'influence, abus de fonction, obtention de dons en numéraire ou de promesses de voix électorale et escroquerie. 70 ont été condamnés hier à des peines allant de 5 à 8 ans de prison, dont plusieurs fils de Saïda Negza, des élus locaux et des membres d'une organisation patronale. Quelques autres ont été innocentés, selon la presse algérienne.
Et pour l'instant, les condamnés sont encore libres. Ils ont 10 jours pour faire appel, Andréane Mélard.
Merci Vincent Dublange.